sur les docks avec vous, Irène Valianenko. Bonjour Irène.
Bonjour Hervé Gardette. Alors aujourd'hui, nous continuons notre partage de la vie des voyous, voleurs et autres gangsters. Non pas à Los Angeles, comme ce sera le cas ce week-end, mais en France. C'est à une fille de gangster que Sur les docks propose de partager ce qui a fait sa vie depuis qu'elle est toute petite. Alors si je vous dis Vitry, Ivry, Villejuif et attaque de banque, vous pensez à quoi ?
Mais je pense à ce que la presse appelait le gang de la banlieue sud.
Exactement Hervé. Et dans le Parisien, Michel Lepage déclarait en 2011 « Il n'y avait pas de chef, quelqu'un avait une idée pour avoir de l'argent, on y allait. » Et quand ça tournait mal, il partait seul en prison, pas de balance. De cette bande des années 70 et 80, certains sont tombés sous les balles, les autres ont remisé leur attirail. Celui qui avait un bon coup de poignet, Bébert, et lui aussi rangeait des voitures. Pendant une heure, imaginez-vous dans un bar où une petite fille nommée Sylvia vibre dans la voix de celle pour qui Bébert porte un autre nom.
Mon vieux. Je pourrais pas chanter parce que j'ai plus l'air là, mais c'est mon vieux.
Il s'en allait, l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux.
Mon vieux.
Il n'y avait qu'un dimanche par semaine. Les autres jours, c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut.
Mon vieux.
Sylvia, tu dis papa, tu dis Bébert, tu dis comment ?
Papa, faut bien. Les femmes disent arrête de dire papa quand il y a des filles à côté. Tu me casses ma cabane, voilà ce qu'il me dit. Il dit des choses dans sa chanson qui me fait rappeler lui, quoi, bizarrement, avec quelques mots. Hein. J'identifie sa chanson quand il est au placard, plein de trucs, en fait.
Voleur, voyou.
Puis il aime bien cette chanson aussi.
Michel Pomared, Jean-Philippe Navarre.
Il y en a une autre aussi que j'écoutais. C'était une chanson de Stommy Bugsy. C'était « Mon papa à moi est un gangster. Mon papa à moi est un gangster. »
Le titre de ce documentaire, ça serait donc Sylvia, virgule, « Mon papa à moi, c'est un gangster. »
Par exemple.
Bébert, il est où aujourd'hui, Sylvia ? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas le rencontrer ?
Bébert, là, il est chez lui, là, Bébert. Bébert, il fait la sieste à cette heure-là. Il a 80 ans. Ouais, 80 ans. Au mois de janvier. Et il court encore. Et il gueule encore. Non, je rigole, papa.
Deux gangsters parisiens pris la main dans le sac dimanche soir, alors qu'ils étaient en train de percer les coffres-forts d'un supermarché en Seine-et-Marne, considéré comme les chefs du gang de la banlieue sud le plus connu, avait notamment fait parler de lui en 81, en faisant évader son frère lors d'un transfert entre la maison d'arrêt et le palais de justice de Meaux.
La première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as dit « Je ne suis pas un enfant du parloir, je suis un enfant de la cavale. »
Oui, je suis un enfant de cavale parce que mon papa s'est évadé de la prison de Versailles. Et durant sa cavale, il a rencontré ma maman et j'ai été conçue à ce moment-là. Voilà. Donc effectivement, je suis un bébé de cavale, c'est ce que je dis souvent.
Qu'est-ce que ta mère t'a raconté de ton père avant la prison ? Comment elle faisait vivre dans son absence ? Est-ce qu'elle a inventé des choses ? Qu'est-ce qu'elle te disait au début, quand tu étais encore plus petite ?
Elle me disait que mon papa était en vacances, en fait. Et je lui répondais rien. Mais moi, dans ma tête de petite fille, je me disais, mon père m'aime pas, en fait. Il part en vacances sans moi. Et... C'était très dur cérébralement enfant, ce qui m'a amené à pas mal de pathologies. Je comblais le manque de mon père par la bouffe. Voilà.
À quel âge ?
Ça a commencé vers 5 ans à peu près. l'âge où tous les copains et les copines ont leur papa qui vont les chercher à l'école et le mien était pour moi en vacances pendant que j'avais besoin de lui.
C'est la tête enfouie dans son blouson qu'il a pris le chemin de la prison.
Quelque part, le fait d'apprendre qu'il avait été incarcéré par la suite, je me suis dit, en fin de compte, c'est pas de sa faute s'il ne me voit pas.
Est-ce que tu as gardé en souvenir, tu avais 7 ans, la vision de ton père, de l'autre côté des barreaux, rentré en prison, aussi petite?
L'image la plus présente que j'ai, c'est la première fois que je suis partie en détention, c'était à Besançon. Il faut savoir que mon père était incarcéré avant mes 7 ans. On m'a caché de son incarcération, en fait. Et c'est quelque chose qui a été brutal, en fait, de comprendre, parce que j'ai compris qu'il était incarcéré, j'ai surpris une conversation. Ce qui fait qu'après, on était obligé de me ramener en détention pour voir mon père, parce que j'avais un besoin paternel. Et ma première vision, mon père était détenu spécialement surveillé. Et donc, il était placé derrière une grille, en fait. Et je pouvais pas le toucher. C'était assez impressionnant, ouais. Le fait de pas pouvoir le toucher. Le fait de pas pouvoir le serrer dans ses bras. Le fait de ne pas comprendre, surtout, parce que on m'avait expliqué qu'il avait fait une bêtise, qu'il était incarcéré pour cette bêtise. Mais je comprenais pas que... Moi, dans ma tête de petite fille, j'avais rien fait. Donc, on me punissait en même temps.
Bébert, il s'assoit souvent là, dans ton café. Peux-tu nous le décrire physiquement ?
Alors Bébert, c'est un monsieur... on sent que c'est quelqu'un qui a beaucoup de vécu. Elle a les cheveux grisonnants depuis l'âge de 30 ans. D'ailleurs, on l'appelle Bébert à les cheveux blancs, c'est pas pour rien. J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, mais on sent que ton père... on dit, oui, ton père, il ressemble à un mafioso. Souvent parce qu'il fume son cigare, tranquille au fond de sa pièce. Il regarde tout le monde, il écoute tout, il voit tout, il entend tout. Mais il dit rien. Il dit jamais rien.
Bébert, il a fait partie du gang de la banlieue sud. Ils étaient célèbres pour quoi ?
Pour leur braquage.
Ils braquaient quoi ?
Braquaient des banques. Ils visitaient même la banque avant de la braquer à l'époque. Et je sais que mon père était très connu pour son coup de poignet. Ça veut dire qu'il ouvrait environ deux coffres-forts en une minute, quoi. Il était très rapide. À peu près, ouais.
C'est une véritable caverne d'Ali Baba que la police a découverte la semaine dernière dans un pavillon de l'Aile-et-Rose, en banlieue parisienne. Une caverne avec un seul voleur, mais il y avait de quoi en alimenter 40, un stock d'armes impressionnant, 5 pistolets mitrailleurs, des revolvers, des fusils, des grenades, des détonateurs, de la dynamite, des gilets pare-balles, des fausses cartes d'identité, des fausses cartes grises, des plaques d'immatriculation maquillées et, en prime, 24 000 faux billets de 10 000 francs CFA. Le locataire des lieux est sous les verrous, la police l'a coffré pendant le week-end alors qu'il rentrait chez lui. Il fait partie, Brigitte Rinaldi, de ce que les policiers appellent le gang de la banlieue sud.
Il faut savoir déjà que le gang de la banlieue sud, c'était ils appelaient le gang de la banlieue sud tous ceux qui étaient... c'était une grande équipe de braqueurs, qui braquaient pas forcément tous ensemble, toujours, mais souvent ça leur arrivait de se retrouver dans les mêmes prisons. Donc effectivement, ils ont des anecdotes, quand ils parlent, tu te rappelles, toi tu faisais à manger, l'autre il pariait aux cartes, il faisait des parties de cartes pour savoir qui allait faire la bouffe pour tout le monde, parce qu'en CD c'est ouvert tout après-midi, donc... ça crée bien sûr que ça crée des liens. Mais là où ça crée plus de liens, c'est surtout braquer avec quelqu'un. C'est... Quand on voit que deux personnes, quand ils braquent, ils sont dos à dos, hein, et chacun protège la peau de l'autre, hein, ça peut que créer des liens. C'est pas des mauvais souvenirs pour eux. Peut-être qu'au moment où ils l'ont vécu, ça pouvait l'être, mais aujourd'hui, ça les fait rire.
quand tu étais à l'école, est-ce que tes camarades de classe ou de jeu te demandaient « qu'est-ce qui fait ton père ?»
Déjà, en parlant d'école, on peut dire que l'éducation nationale, on ne va pas englober toute l'éducation nationale, mais certains professeurs, quoi, maîtresses ou maîtres que j'ai pu avoir dans l'enfance, on ne peut pas dire qu'ils m'ont aidé. Bien au contraire, quand on est en manque de paternel, on fait ressentir notre mal-être par des bêtises, peut-être pour avoir un peu d'attention, un peu plus que d'autres. Et moi, on me reprochait, on me disait que j'allais devenir comme mon père. Voilà, par exemple, à 7 ans. Et surtout que les instituteurs savaient que mon père était en détention. Et j'avais beaucoup de parents aussi, les parents... parce que je suis d'Ivry-sur-Seine, donc c'est une petite ville. Et j'ai un nom de famille pas commun, ce qui fait que quand il y avait des articles de presse... Les parents me montraient du doigt et disaient à leurs enfants de ne pas me fréquenter parce que je n'étais pas fréquentable. Et je me suis retrouvée en CM2, et ça marque, hein, avec toute une classe contre moi quand même, à l'époque.
Il y a un an, les policiers mettaient la main sur un stock d'armes tout aussi important dans la même région. Cette nouvelle découverte prouve une fois de plus que le gang de la banlieue sud, spécialiste des cases dans l'Essonne et le Val-de-Marne, était bien approvisionné et bien organisé.
Pour eux, t'étais quoi, la fille du gangster ?
J'étais une fille de voyou, ouais. J'avais la rage. J'avais même pas de haine, parce que la haine, je leur laissais. J'avais la rage. Ce qui m'a amené à bien sûr, être une élève perturbatrice durant ma jeunesse. Et après, c'est vrai qu'on se rebelle très vite et très jeune contre le système, quelque part.
Cette fois encore, la police est l'ennemi. Je souhaite la meute, personne ne piote. Ça sent l'émeute, ça commence. La foule crie vengeance par tous les moyens nécessaires. Réparer l'offense, la ville est quadrillée. Les rues sont barrées, les magasins pillés. Les lascars chirés. Moi j'ai toutes les caractéristiques du mauvais ethnique. Antipathique, sadique, allergique aux flics. Même dans la foule, je porte la cagoule. Les plus jeunes m'écoutent dans l'école de la rue. Je suis leur prof, premier cours.
Ah bon, il est en prison pour braquage et tout. Oh là là, c'était déjà... Surtout à l'époque, dans les années 80, c'était quand même quelque chose. Il faut savoir qu'Ivry, Vitry, Villejuif, tout ça, c'était, on les appelait les trois communes. On entendait beaucoup parler de tout ça déjà à l'époque. Je m'en cachais pas, je me suis jamais caché de l'incarcération de mon père. Quand les gens me disaient où est ton père, que fait ton père, mon père en prison. Déjà parce que en banlieue. Ça me revalorisait, mais j'avais une histoire pas comme les autres, donc je pouvais quand même titiller la curiosité des gens, et ça me donnait une pseudo-importance, en fait, qui m'a peut-être aidé à la finale à surmonter plein de trucs. Je disais, mon père est en prison pour braquage, voilà.
Qu'est-ce que t'écoutes à l'époque ?
Du rap. Les premiers rap français. Je me retrouvais dans leurs paroles. Chanson qui sort de l'album La Haine, 96. Sacrifice de poulet. Étant pas consciente que les braquages c'était grave, pour moi la police avait pris mon papa et me l'avait volé, quoi.
Comment tu grandis sans lui ? Qu'est-ce que tu lui racontes de ta vie et qu'est-ce que tu comprends de la sienne ? Et est-ce qu'il y a quand même de l'amour qui s'échange ? Est-ce que tu le sens ?
Bien sûr qu'on s'écrivait. Bon, j'allais le voir. J'expliquais mes journées, mes problèmes à l'école. Quand je m'engueulais avec ma maman aussi, je me lâchais. Parce qu'au bout d'un moment, ils sont séparés. Donc, je me rappelle d'une anecdote, je voulais un scooter, ma mère voulait pas me l'acheter. Je disais, bah, tu pourras m'acheter un scooter ? Il me disait, il m'écrivait, ouais, bah, dès que je sors, je t'achète ton scooter. Mais je disais, tu verras, papa, quand il va sortir, il va m'acheter mon scooter. C'était des conversations d'enfants, mais lui, c'était plus protecteur, en fait. Protecteur tout en sachant que quand on a beaucoup d'années d'incarcération, dans sa tête, il n'a pas l'âge qu'il a.
Il y a beaucoup de témoignages où les femmes ou les enfants amènent de la nourriture. Est-ce que tu te souviens de ça ?
Non, j'ai pas de souvenir de ça. Je me rappelle du linge. C'était beaucoup des survêtements qui demandaient. Au niveau de l'odeur, je parfumais, en fait. On mettait du parfum avec ma maman. Mais je me rappelle surtout des réactions des surveillants. quand on apporte ce linge, en fait. Quand on prend soin de plier les affaires, de mettre du parfum et qu'ils prennent chaque affaire et ils touchent pour savoir s'il n'y a rien dedans et le jettent en boule dans le sac. Comment il peut être mis en chiffon dans le sac, ça me brisait le cœur à l'époque.
Et le avant-parloir, comment est-ce que tu vivais ce départ et puis cette attente d'aller retrouver ton père au parloir?
Avec les autres familles, c'était une compréhension générale. Peu importe le délit du prisonnier qu'elles allaient voir, on vivait tous la même chose en fait. Et c'est vrai que dans certains CD, centres de détention, où c'est un peu plus libre que les maisons d'arrêt, je me souviens de jouer avec d'autres enfants avant les parloirs. Et généralement, comme on prenait tous un même jour pour les parloirs, on se revoyait pratiquement, par exemple, moi c'était le mercredi, donc on se voyait beaucoup avec d'autres enfants le mercredi, c'était presque content de les revoir, quoi, mine de rien.
Et les trajets avec ta mère, peut-être, parce que ton père a dû changer de, de prison longtemps.
Ouais, j'ai voyagé. C'est beaucoup les prisons, en fait. Tiens, dans telle ville, il y a telle prison, dans tel endroit, si on pouvait aller manger au restaurant. Il n'y a pas non plus que l'incarcération, c'est quoi le centre de détention ou autre. Il y a aussi des souvenirs avec ma maman quand on allait manger après ou avant. Voilà, c'est avec mon frère, ma sœur. J'ai voyagé. Ben, les trajets, c'était souvent angoissant, en fait, toujours avant le parloir, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'essayais de mettre à l'époque, c'était des Walkman qu'on avait. Donc, je mettais le Walkman, j'écoutais des musiques qui m'apaisaient dans la voiture. Je pouvais chanter à haute voix en ennuyant tous les passagers qui étaient avec moi. Mais c'est pas grave, je le faisais quand même. Et ouais, c'était ça. C'était plus. Je trouvais dans la musique un échappatoire, en fait, au stress. C'est une chanson d'Elsa. C'est T'en vas pas, je crois que c'est ça le titre. T'en vas pas, papa, si tu m'aimes, t'en vas pas. T'en vas pas au bout de la nuit. Je peux pas chanter cette chanson, c'est affreux pour moi.
T'en vas pas, si tu l'aimes, t'en vas pas. Papa, si tu l'aimes, dis-lui. Quelle est la fin de ta vie, vie.
Papa fait pas de conneries. C'est une chanson qui me. Jusqu'à aujourd'hui, je peux pas l'entendre. Affreuse.
Est-ce qu'on pourrait dire que à un moment tu lui en as voulu et à un moment tu lui as pardonné?
Quand j'avais 13 ans, ouais. J'en ai voulu quand j'avais 13 ans. D'ailleurs, c'est à ce moment-là où j'ai fait un refus d'aller au parloir. Non, j'en ai pas voulu. Plus tard, c'est pas lui à qui j'en ai voulu, c'est à moi. De ne pas y avoir été. D'avoir loupé ces moments. Et puis je me suis dit qu'il a dû en souffrir énormément dans ces 9 mètres carrés. D'ailleurs, je me souviens d'une lettre qu'il m'a envoyée où il y avait une phrase dessus qui disait « On a peine à haïr ce qu'on a beaucoup aimé ». C'est une phrase pour moi qui a exprimé tellement de souffrance que je m'en suis voulu à moi, en fait. Quand j'ai reçu cette lettre, d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai réécrit tout de suite après et je suis allée le voir tout de suite après. Mais c'était une période dure quand même.
Au-dessus de ton bar, qu'est-ce qu'il y a?
Il y a du fric. Il y a des billets. Des billets du monde en entier.
Des vrais?
Ouais. Ouais. et des cartes postales pour voyager. Mais bon, je le voyais pas aussi grand, le billet de 500 francs, moi.
Donc tu as parlé de l'angoisse que tu avais avant les parloirs, des retrouvailles. Et quand tu sortais de parloir, comment tu te sentais ?
Tout dépendait du parloir, si c'était bien passé ou pas. Bon, généralement, ça se passait bien, mais toujours cette tristesse de le quitter, bien sûr, de le savoir, de le laisser derrière, derrière ces murs de béton. Mais soulagée, parce que je me disais... je pouvais rentrer voir mes potes, dire oh « bah, j'ai vu mon père ». Voilà, c'était... je pouvais à mon tour dire « voilà, j'ai vu mon papa ». J'ai vu mon papa, voilà, parler de mon père, quoi, comme j'ai pas pu le faire étant enfant, en fait. Vraiment petite. C'est toujours un héros. C'est mon héros, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, souvent quand je dis bah, oh, moi, je suis fille de voyous, ça peut. Bon, les gens n'osent pas dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas, donc ça peut déranger certaines personnes, mais il y en a qui. Ça peut passionner en fait. Parce que c'est pas une vie comme tout le monde, c'était fort. Ouais, c'est fort, ouais, je sais pas.
Comment est-ce que tu regardais ta mère ?
J'étais fière parce que je me disais, c'est quand même courageux. Plus tard, elle me racontait, en fait. Et plus tard, quand j'ai eu l'âge de comprendre et de me taire, surtout. Parce que c'est des choses, m'expliquer des choses qui ne peuvent pas être répétées. Des déroulements, comment c'était passé, voilà, c'était des perquisitions que j'ai subies jeune aussi, hein, des perquisitions. Puis j'étais fière de ma mère. Ils sont séparés, voilà, dans la vie ça arrive. Même après la séparation, jusqu'à ma majorité, tant que mon père était incarcéré, alors qu'il était sorti, il était rentré entre temps, il n'était plus obligé de le faire. Mais jusqu'à ma majorité, jusqu'à temps que j'ai l'âge d'y aller toute seule, elle m'accompagnait voir mon papa. Elle n'était pas obligée de le faire. Et je pense que c'est fabuleux de sa part. Bon, ma mère s'est éloignée de lui durant son incarcération, tout en allant le voir. Hein, s'est éloignée sentimentalement. Mais elle a attendu qu'il sorte avant de rompre. Ce qui a été pour lui sa plus grosse douleur, je pense. À 17 ans, quand mon père est sorti d'une peine de 6 ans et demi pour braquage, là, ouais, j'ai pu parler avec lui, on va dire pour de vrai, comprendre sa vie, pourquoi il en est arrivé à devenir braqueur. Voilà. Et là, j'ai pu me reconstruire surtout. Hein.
Rien pourtant ne pouvait laisser soupçonner ce père de famille bien tranquille. C'est par hasard, en cherchant de fausses vignettes fiscales, que les policiers ont découvert le poteau rose.
Je suis née en 76, le 4 octobre, et le 4 octobre 96, le jour de mes 20 ans, j'ai mon père qui s'est fait arrêter, en fait. Mais avant ça, il était en cavale pendant un an. Donc tout le monde sait que lors d'une cavale, enfin dans le milieu... les personnes à pas approcher sa famille pour pouvoir rester dehors le plus longtemps possible. Et donc, on savait très bien que j'allais avoir les flics au cul, en m'excusant d'expression. Donc, on m'apportait des lettres de mon papa pendant 6 mois, en fait, pour que je puisse avoir de ses nouvelles. Il m'expliquait pourquoi et du comment, pourquoi il ne pouvait pas venir me voir. Et un jour, il a croisé une amie et il m'a dit, tiens, si tu vas voir, va chercher Sylvia, dis-lui qu'on se retrouve au-dessus du parc. Et m'a fait, tiens, viens, j'ai une surprise pour toi. J'ai vu mon père et depuis ce jour-là, il s'est dit, bon, j'arrête ma cavale. Donc pendant 6 mois, il est resté dehors, il ne se cachait pas, mais il s'est fait attraper le jour de mes 20 ans. Je ne pense pas qu'il y ait de coïncidence quand même.
Votre fille a 20 ans, que le temps passe vite, madame y rentre encore. Elle était si petite, et ses premiers tourments sont vos premières rites, madame. Et vos premiers soucis. Chacun de ses 20 ans, pour vous a compté double, vous connaissez déjà. Tout ce qu'elle découvre, vous avez oublié les choses qui la troublent, madame. Et vous trouvez tout aussi.
Aujourd'hui, Bébert s'assoit dans ton café. Est-ce que ses copains d'antan reviennent le voir ?
Ils viennent manger tous ensemble, ils se remémorent leurs histoires. Leur garde à vue aussi, souvent, ils me racontent comment ils ont procédé pour faire le braco à l'époque. Souvent, ils disaient, ouais, putain, toi, t'étais gueulard quand même. Hein. Puis ils disent, tu rigoles, c'est toi le plus gueulard. Et après, ils arrivent à s'engueuler encore. Hein. C'est vrai, quand je regarde des vieux films à la Jean Gabin, ça fait les tontons flingueurs.
C'est comme dans un film ?
C'est mieux qu'un film, c'est la réalité. Ce film s'est inspiré de la réalité indirectement. Hein, hein. Là, c'est la vraie vie. On va dire que c'est des bandits au cœur tendre. Des gens très protecteurs. C'est des gens avec qui on peut parler de tout. C'est des gens que je respecte beaucoup.
Est-ce que Bébert, c'était un homme qui plaisait aux femmes ?
Je pense, ouais. Quand je les entends parler, ouais, il en a eu des femmes, ça c'est sûr. Pas eu que ma maman, malheureusement. Mais tous ces hommes-là plaisent aux femmes, de toute façon. Parce que on se sent protégé avec eux, c'est un délire. On se sent protégé, on manque de rien. On peut pas dire qu'une femme de voyou, à part quand il est en prison, qu'elle soit malheureuse. Elles ont tout ce qu'elles veulent. Hein. En tout cas, dans ceux que j'ai côtoyés et ceux que j'ai connus, c'était des femmes très classes, très apprêtées. Ouais, c'était... Parce qu'il faut pas croire, c'est peut-être des braqueurs, mais c'est des gens galants, c'est des gens qui t'ouvrent la portière de la voiture, qui t'avancent sa chaise... Qui t'ouvre la porte, je sais pas, c'est des gens galants en fait. Ils savent, ils sont flatteurs, ils sont forts. Hein. Ils sont du métier, les garçons. Hein. Ouais, ils sont forts, ouais.
Un coup d'amour, un coup de tête, je me rappelle. C'est un rêve qui est super belle, je dors plus la nuit, je fais des voyages.
Et toi, Sylvia, est-ce que tu as eu déjà des amoureux qui appartenaient pas à ce monde-là ?
Pour être honnête, on va dire que avec quelqu'un de normal aux yeux de la société, je m'ennuie. Voilà. Avec un voyou, on peut pas s'ennuyer. C'est jamais le même. C'est jamais la même journée. Puis c'est beaucoup. Moi, je suis quelqu'un de beaucoup de. J'aime l'imprévu. J'aime. Voilà, c'est. Il rentre. Bah hop, on part en voyage. Mais on va où? Bah surprise. Voilà, c'est. On n'a peut-être pas beaucoup de temps ensemble, puisqu'il y a la prison derrière et tout ça. Voilà. Mais le peu qu'on nous donne, ça vaut tout l'or du monde.
Ça veut dire, Sylvia, fille de gangster. Et ensuite, femme de gangster.
C'est possible que ce soit ça, oui. C'est possible que ce soit ça, oui. Mais j'ai pas fait exprès. Hein. Cette phrase, j'ai pas fait exprès. Mais ouais, j'ai pas fait exprès.
Mais cette vie d'aventure, c'est une vie, on va dire, hors la loi, illégale. Est-ce que par moment, tu y penses?
En fait, j'y pense quand il y a le danger. Quand je sais qu'il y a les flics pas loin. Effectivement, là, j'y pense, ouais. Avant de me faire arrêter avec mon chéri et avant d'être incarcéré, il était en cavale. Je vivais cette cavale avec lui. Hein. Ce qui fait que... quand on est dedans, faut toujours faire... Quand on est en cavale, faut toujours faire attention... à savoir s'il y a pas de si on n'est pas suivi, s'ils vont pas remonter la planque. Un exemple sur l'autoroute par exemple, quand on rentrait chez nous, on se mettait sur la bande d'arrêt d'urgence. Comme ça si on était suivi, on pouvait pas s'arrêter, c'était obligé de continuer. Même s'il y avait personne hein, on se mettait sur la bande d'arrêt d'urgence, on mettait les warnings, on attendait 5 minutes. On s'est dit, c'est bon, ils sont loin. Dans les voitures de police sur le pare-soleil, il y a écrit police quand ils le baissent. Quand on avait un doute, bah on se baissait à côté de la voiture, on faisait nos lacets, on regardait s'il n'y avait pas les cris police. C'est des trucs... ça devient habituel. Je me rappelle d'un jour... mon mec est en cavale, je suis au bar, et je vois un hélicoptère mais qui vole super bas. Mais il est vraiment super bas, c'est super rare sur Paris en fait. Je dis, c'est presque flippant, hein, limite. Je me dis, oh là, ils vont sortir les mitraillettes, ils vont nous. C'est la guerre ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai mon chéri qui m'appelle. Il me dit, putain, je suis à Orly. C'est bizarre, les hélicoptères, ils sont super bas et tout. Je lui dis, mais attends, je lui dis, tu me fais flipper là. Je lui dis, j'ai eu le même à côté du bar. Pourtant, je suis à Paris, on est à l'opposé, quoi. J'ai quand même regardé sur Internet. Et en fait, c'est le salon de la gendarmerie. Donc ils faisaient des hélicoptères, mais bon, on a un petit peu paniqué, quoi, sur le délire. Là, ouais, ça peut être un truc flippant, ouais. Mais c'est après, on en a ri. Hein. D'ailleurs, la veille de mon incarcération, quoi, la veille où ils sont venus me chercher, il y en a deux qui sont venus ici, et je savais que ça en était. Et le lendemain, je l'ai revu, mais pas au bar, commissariat. Mais c'est marrant parce que là, en garde à vue, les flics m'ont posé la même question que toi. Ils m'ont dit pourquoi tu t'es mis avec ce monsieur, quoi. J'ai dit parce que peut-être qu'indirectement je recherche mon père. Après, j'ai vécu toute ma vie comme ça, hein, malheureusement. Quoi, malheureusement non, parce que je l'ai pas mal vécu, mais un papa en prison, moi qui suis allée après, mon copain, voilà, c'est. Je vous ai dit, c'est 31 ans de ma vie, la prison, c'est pas rien. J'ai été condamnée à 18 mois de sursis et 18 mois de prison ferme pouvant être aménagée. Et c'est vrai que j'ai beaucoup pensé... à mon enfance en prison, à mon enfance, à ce que mon père a pu vivre. Et j'ai d'ailleurs repensé à cette phrase qui m'a écrite quand il m'a dit qu'on a beaucoup de peine à haïr une personne qu'on a beaucoup aimée. Et c'est à ce moment-là où j'y ai beaucoup réfléchi à cette phrase. Vraiment. Et moi, j'ai mon papa qui a quand même 20 ans d'incarcération. Moi, j'arrive avec mes 4 mois. Donc, je suis un bébé cadom pour lui. Mais bon, déjà, il en a souffert quand même. Je pense que chaque minute de garde à vue et fin de garde à vue, c'est un parcours qu'il a vécu. Donc, je pense qu'il a pu s'imaginer à quel moment, où est-ce que j'étais à telle heure, quoi. Tiens, là, elle est déférée. Tiens, là, elle arrive au quartier des arrivants. Tiens, là, ça y est, je l'ai prévenue. Et j'ai beaucoup pensé à lui, là, à l'intérieur. Déjà, à l'époque de mon père, quand lui me racontait ce qui s'y passait, c'était déjà hardcore. Et je vois que, en 30 ans, ça n'a pas changé. Bon, si, à la télé, voilà. Mais dans le côté humain, ça n'a pas changé. Pour les soins médicaux, par exemple, ça n'a pas évolué, c'est toujours pareil. Des suicides que j'ai pu voir, des filles qu'on voulait se donner la mort à l'intérieur, des femmes pas soignées, des femmes qui arrivent enceintes et qu'on amène, pas qu'on force, hein, mais qu'on amène psychologiquement à l'avortement. Des choses graves, ouais. Ce qui m'a amené aujourd'hui à combattre et à dénoncer ce système carcéral. En détention, j'ai rencontré une femme extraordinaire qui s'appelle Sylvie. Et on anime une émission de radio qui s'appelle l'émission L'Envolée, qui donne la parole aux prisonniers, donc ils nous écrivent. Il y a des familles aussi qui nous contactent.
Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est vendredi, il est 19h. C'est donc l'heure de L'Envolée, comme tous les vendredis de 19h à 20h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Eh bien, on est bien content d'être avec vous. Et je dis on parce que là, enfin on, c'est là tout de suite, on est deux. Alors on attend Sylvia qui devrait arriver. Elle est sur, je sais pas, un tournage, je crois. Un tournage, voilà, c'est ça. On a des stars avec nous, donc elle doit être sur la route. Sylvie, je sais pas.
Elle comme moi, on connaît les deux côtés de la prison, donc visiter et être visité. Et faut l'avoir vécu pour comprendre ce que c'est d'avoir cette douleur. Dans 9 mètres carrés, pas pouvoir sortir, pas pouvoir. Voilà, on se partage des remèdes de tolard, hein, comme c'est du coup de girofle pour soigner les rages de dents, par exemple. Nous, on est des femmes, donc on a besoin de faire des lavages de peau. Donc on prend du lait, du yaourt nature avec du sucre, et puis on frotte le visage avec ça, voilà. Pour que ça sente bon en cellule, on fait sécher de la peau d'orange, qu'on fait cramer après. Voilà, c'est des petits remèdes qu'on se partage. Tu en mets pas de grand-mère, mais de tolard.
Bébert, est-ce qu'il est venu te voir au parloir?
Alors, il aurait aimé venir me voir au parloir, mais son parloir a été refusé. Parce qu'il faisait partie du grand banditisme. Voilà. J'ai ma maman qui est venue, ouais. Ça a été une de ses plus grandes souffrances, je pense. De pouvoir déjà revivre l'incarcération. Et de me savoir en prison, quoi. C'est sûr que... Ouais, ça, je pense que ça a été une grosse douleur déjà aussi, le fait qu'on lui interdise les parloirs. Elle m'écrivait tous les jours. Hein. On m'a bloqué mes parloirs pendant 2 mois et demi. Tous mes parloirs et toutes mes lettres. Tous les jours, elle m'écrivait, même tout en sachant que mes lettres allaient être bloquées. J'ai reçu 60 lettres d'un coup. Avec des fleurs et tout dessus, elle me dessinait des fleurs. Elle m'égayait avec ses lettres, elle me donnait le soleil dans ma cellule. Voilà.
C'est pas aussi violent de faire face à tout ça ?
Si, parce qu'on vit d'un coup l'évolution de la personne de proche. Parce que ma mère développait sa douleur dans les lettres. Donc on la sentait. Je sentais que des fois elle était pas bien, tiens, ce jour-là elle était pas bien. Là, ouais, c'est ça qui est douloureux. Mon neveu qui m'a écrit aussi, c'est tout ça qui est douloureux.
Est-ce que quand tu étais incarcéré, tu as repensé à cette phrase qu'on te disait quand tu étais petite
Tu deviendras comme ton père. Oui, j'y ai pensé. Et puis, et dans ses principes, j'espère bien que je serai comme lui et pas comme eux, surtout. C'est des valeurs qu'il m'a inculquées, c'est les codes d'honneur. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. Je sais pas. Voilà, c'est... J'ai grandi avec ça. C'est fort. Ses associés sont toujours amis avec lui. C'est des amis de 50 ans, voire plus, pour certains. Donc, ils ont vécu des choses fortes. Ils sont allés au charbon ensemble, ils sont allés dans des tribunaux ensemble. Moi, je me rappelle que quand mon père est sorti de détention, ses amis qui sont restés, qui étaient dehors, quand ils l'ont revu, bah, ils lui donnaient des sous. Je comprenais pas pourquoi ils lui donnaient des sous. Et en fait, c'est un rituel chez eux. Tu sors de détention, donc t'as pas de sous. Donc, pour te refaire, voilà, tiens un billet. Et puis, fais-toi plaisir.
Les jours de veille, quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu. Mon vieux, nous, on connaissait la chanson. Tout qui passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu. Avec mon vieux, chez nous, il n'y avait pas la télé. C'est l'or que j'allais chercher. Je sais, c'est con. Dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder, on a à peine ouvert les yeux. Nous deux, j'aurais dû, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin, ça l'aurait peut-être rendu heureux. Mon vieux, même quand on a juste.
Eh, hey, papa?
Oui.
Papa?
Ouais.
Tu sais ce que je viens d'écouter comme chanson?
Non.
Mon vieux, de Guichard. Ah. Je viens d'écouter Daniel Guichard, mon vieux.
Ah, tu l'avais jamais écouté?
Ben si.
Ben
j'aime bien, c'est pour dire ça.
C'est pas lui qui l'a fait. Hein.
C'est qui?
Je crois que les paroles, c'est Jean Ferrat.
Ah, d'accord. Bon ben voulais, je voulais juste te dire ça et que je t'aime. Tu m'aimes?
Bon.
Tu m'aimes? Bisous. Bon, tu m'aimes maintenant qu'il m'a dit.
Quand tu es sorti de prison, il était là? Comment ça s'est vécu cette scène?
Il m'a dit je parle pas aux prisonnières. Avec humour bien sûr. C'est ça aussi dans ce milieu-là, c'est beaucoup. On joue des choses fortes par l'humour. Par exemple, quand je lui ai demandé, mais quand t'étais en prison, comment t'étais, tu pensais à moi? Il me dit, bah non, pas du tout. C'est de l'humour noir, mais je sais très bien qu'il pensait à moi, il n'a pas le choix. Et je lui dis, oui, mais qu'est-ce que tu pensais qu'il t'avait enlevé, qu'il t'avait enlevé à moi? Il me dit, non, je leur ai demandé de prendre 2-3 années en plus pour moins de voir, justement. C'est pour me dire qu'en fait, c'est le contraire. Ouais, il a beaucoup d'humour. D'ailleurs, il y a des gens qui lui ont offert un ciseau d'or, hein, parce qu'il taille beaucoup les gens. Voilà. C'est un tailleur.
Mais alors, L'étoffe, ça serait quoi?
L'étoffe, ce serait de la soie parce qu'il est doux à la finale.
Combien? 2 euros, par contre, aussi. T'as 1 euro. Ouais, je dois avoir 3 ans.
Bonne journée.
Merci, au revoir. De temps en temps, on fait des soirées au bar et il y a des gens qui chantent des chansons des années 20. Comme c'est un mauvais garçon qui a des façons pas très catholiques. On a peur de rien quand on le rencontre la nuit. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. Par exemple, celle-ci. Il est marrant, il bouge la tête un petit peu comme ça. On est très fusionnel avec mon papa. On a des rapports de force, mais on est très fusionnel. C'est l'un sans l'autre, on n'est pas bien, quoi. Mais quand on est ensemble, on s'engueule, généralement. Mais c'est... on est comme ça, quoi. C'est notre façon de se dire qu'on s'aime, bizarrement. Mais c'est, voilà, c'est mon papounet, quoi. C'est là.
Le monde de la prison, c'est loin?
Non. C'est 31 ans de ma vie. J'en ai 38 aujourd'hui, et c'est 31 ans de prison derrière moi. Mais une chose qui est important de dire, enfin, à mes yeux, j'ai rencontré souvent des parents qui mentaient à leurs enfants sur le fait qu'ils avaient été incarcérés ou qu'ils sont incarcérés, et même des co-détenus qui disaient « Non, non, moi, je veux pas que mes enfants me voient en prison. » Je pense pas qu'il faut mentir sur ça. Je pense pas que l'enfant peut réussir à se construire sur la base d'un mensonge. En tout cas, moi, personnellement, je l'ai mal vécu étant enfant.
Sylvia, le parloir, c'est loin derrière toi ou c'est toujours d'actualité?
Le parloir n'est pas loin derrière moi puisque j'espère en obtenir un bientôt pour aller voir mon amoureux. Puisque nous avons été incarcérés pour la même affaire et ça fait 4 ans aujourd'hui qu'on m'interdit de le voir. Donc j'espère dans un futur proche... pouvoir avoir obtention de ce permis pour pouvoir continuer mon histoire d'amour avec ce monsieur.
Tu lui écris?
Bien sûr, tous les jours. Tous les jours. Bien sûr, il a intérêt, d'ailleurs. Tous les jours aussi. On s'écrit, ouais.
Et le fait que tu ne puisses pas le voir, justement, comment tu vis cette absence, à nouveau cette coupure, ce manque?
Alors au départ, je l'ai vécu comme je l'ai vécu étant petite avec mon papa. Je comblais le manque de mon père par la bouffe, ce qui m'a encore donné des pathologies alimentaires, ce qui a fait qu'aujourd'hui je me suis fait opérer pour maigrir et j'ai perdu presque 40 kilos en 6 mois pour aujourd'hui être bien dans ma tête, dans ma peau, même si toujours le manque de mon chéri est là plus fort que tout. Voilà. Quand je me suis mis avec lui, je savais où est-ce que ça pouvait m'amener. Et c'est un choix de vie. Même en n'étant pas là aujourd'hui, il arrive à me transmettre son amour à travers ses lettres, à m'épanouir et à me rendre heureuse aussi fort que ces personnes qui vivent en couple tous les jours à la maison et qui peuvent être encore plus malheureux que moi dans leur quotidien. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, je le remercie pour ça.
Il sort quand ?
Dans très longtemps. Dans très longtemps.
Gangster. Sur les docks, attachés de production Christine Bernard et Alison Sinard, mixage Eric Boisset, réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire de Michel Pomared.
Ce documentaire, c'est sur franceculture.fr, la page de Sur les Docs.